Commencer. Eh ben, merci d'abord à tout le monde.
Midi est consacré à un regard plus spécifiquement porté sur la danse et notamment des relations entre l'université comme espace de formation aux pratiques de danse et les relations avec le monde professionnel, les institutions culturelles et comprendre comment en fait, faire un état des lieux parce que plusieurs chercheurs, articles ont déjà évoqué cette histoire-là, mais en tout cas faire un état des lieux de cette relation, des problèmes que les enseignants-chercheurs rencontrent vis-à-vis des collaborations, non pas en raison de résistance du monde professionnel, mais aussi des raisons politiques, des raisons structurelles dans l'organisation et la gestion des projets, des résidences, des rencontres. Je pense que c'est un point intéressant. Le cirque connaît d'autres problèmes ou a une autre histoire en fait de ses relations et notamment une certaine forme de enfin, le monde des circassiens regarde le monde universitaire avec un peu de méfiance parce que c'est une histoire qui est aussi plus jeune. Et voilà, ce n'est pas le cas avec la danse. Donc, l'idée, c'est de voir ces deux histoires un peu séparément et d'en tirer voilà, des éléments constructifs et qui vont aussi alimenter la réflexion pour aujourd'hui et pour demain, puisque l'idée, c'est toujours de continuer à développer ces collaborations, de développer les départements danse dans les universités en France et dont on verra que la danse n'est pas enseignée que dans des départements universitaires labellisés, dit danse, mais parfois dans des départements pluridisciplinaires mêlant théâtre, cinéma, art du spectacle, art du vivant en général. Voilà, donc deux tables rondes. Première table ronde donc avec Marina Nordera, Roland Ruesca et Isabelle Launay de 14 à 15 heures et deuxième table ronde avec Marie Glon, Guillaume Sintès et Mélanie Papin de 15 à 16. On fera une petite pause entre les deux. Et l'idée, c'est de tracer ce fil entre des enseignants-chercheurs qui ont construit et contribué largement au développement de ces départements tels qu'on les connaît aujourd'hui et de voir donc les enjeux pour demain. Voilà. Donc je vais me permettre quand même de présenter nos trois collègues, amis et chercheurs. Donc Isabelle Launay, qui est professeure au département de danse de l'Université Paris 8 et qui enseigne, si je ne me trompe pas, Isabelle, tu me corrigeras, depuis 1995 au département de danse, l'histoire des danses scéniques entre donc l'époque contemporaine, 20e, 21e siècle, ainsi que l'esthétique. Et tu as vraiment contribué au développement de ce département qui aujourd'hui fait partie des espaces, en tout cas de formation, au moins du point de vue des productions, des mémoires et aussi des effectifs des étudiants, comme un des plus développés en France. Et par ailleurs, ce qui était aussi intéressant dans cette invitation, c'était que tu as aussi, par ton expérience, contribué et collaboré avec d'autres structures, notamment à Montpellier, avec le CCN de Montpellier, ou au CNDC, donc d'Angers. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce regard plus large. Voilà. Donc, Marina Nordera, qui est donc danseuse historienne de la danse et qui est arrivée donc, depuis 2002 à Nice en tant que professeure en art du spectacle à l'université donc, Côte d'Azur. Tes recherches et ton enseignement portent sur l'histoire du corps, de la danse, et dans une perspective interdisciplinaire, et tu as évidemment contribué à développer ce pôle aussi maintenant qui est devenu, qui rayonne, j'aime pas trop l'idée de rayonnement parce que ça fait des marges. Donc Nice est devenu un centre vraiment de formation très important et qui attire des étudiants de France, mais aussi d'Europe. Merci Marina. Et Roland Visca, qui est professeur émérite donc, d'esthétique au département art de l'Université de Lorraine et qui a une formation, un parcours qui est aussi intéressant du point de vue de la pluridisciplinarité, puisque Roland, tu viens du monde du sport, des STAX, mais tu es aussi passé par les neurosciences, la philosophie, et tu es aussi comment? Et historien aussi, donc, en histoire du spectacle, en histoire de la danse. Et tu as largement enseigné dans un département qui était pluridisciplinaire avec le cinéma et le théâtre. Et donc, c'était aussi intéressant d'avoir ton regard sur ces collaborations, en fait, les autres arts présents dans ton université. Voilà. Donc, vous avez compris que nos trois invités de marque, que je remercie, vraiment, voilà, vous faites vraiment partie de l'histoire de ces départements et de leur développement. Et donc, la première peut-être question que j'aimerais que vous puissiez aborder, c'est l'état, en fait, l'état du paysage en danse à votre arrivée en poste. Donc, je lance quelques questions, puis après, chacun s'empare. Il n'y a pas de... pas être autoritaire. Voilà. Où faisait-on de la danse quand vous avez pris vos fonctions? À quoi formait-on? Est-ce que c'était à une culture chorégraphique? Est-ce que c'était des techniques de danse? À la recherche? Et avec qui vous avez d'abord travaillé? Avec les collègues du département, avec des institutions chorégraphiques? Des institutions culturelles, des personnes, artistes seules, enfin voilà. Donc première question. Chacun répond à sa patte sombre et comme il le veut. Et dans le temps, il n'y a pas de chronomètre, on est libre. Voilà. Ok.
Je commence. Donc, je suis arrivée à Nice en 2002, après avoir passé 6 mois en tant que professeur, après avoir passé 6 mois en tant que professeur invité. Et donc, j'avais répondu à un appel qui circulait en Europe pour prendre ce poste de professeur invité, parce que la personne qui avait été invitée et choisie a fait faux bond au dernier moment. Donc, ça commence par hasard. Et quand je suis arrivée, il y avait un collègue qui était en congé de longue maladie, maître de conférence en danse, qui avait repris le poste qui était de Francine Lancelot, qui avait été pouvert vers la moitié des années 80, et qui... Non, en 1989, et qui avait démissionné après 3 ans. Donc, Francine Lancelot, une grande pionnière de la danse baroque, qui avait fait une thèse en sémiologie, avait été recrutée pour structurer ce département de danse qui avait été imaginé et fantasmé par deux professeurs de EPS, Robert Krang et Simon Clamence, qui avaient commencé à travailler sur la danse au sein d'un musée, on l'appelait une unité de valeurs transdisciplinaires à partir des années 70. L'Université de Nice a été ouverte en 65. Et puis, à partir de 69-70, ils ont ouvert cette UV interdisciplinaire où il y avait les arts du mouvement. L'art mouvement, donc musique, danse, mais aussi expression corporelle, plein de choses, ouvertes à tous les étudiants de toute la faculté de lettres. Donc là, c'est le premier noyau qui se transforme en parcours optionnel au sein du département de art, communication, langage, qui est aussi les résultats d'une réforme ministérielle qui introduisait des UV interdisciplinaires. Donc, ils travaillent donc dans ce contexte et voulant transformer ce parcours interdisciplinaire en diplôme, formation diplômante, ils ont créé un DUG, c'était à l'époque, art du spectacle avec dominante danse, puis qui devient danse et musique, Et puis finalement, ils obtiennent une licence danse, qui est aussi le résultat d'une négociation auprès du ministère avec Michel Bernard, qui était dans les mêmes mouvances à Paris pour Paris 8. Et donc, ils arrivent à avoir la formation DUG, licence.
Guillaume Saint-Esse est maître de conférence en danse, art du spectacle de Strasbourg, donc là, un département pluridisciplinaire. Et Mélanie Papin est maîtresse de conférence en danse dans un département à art. C'est ça, pas art du spectacle, art au pluriel, voilà. Et donc, l'idée, en fait, de ces deux tables, c'est de faire discuter en effet des territoires qui n'ont pas les mêmes problématiques, qui n'ont pas non plus les mêmes publics. C'est évoqué par Coursup, là vous pourrez aussi peut-être faire un point sur qui sont vos étudiants, qu'est-ce qu'ils viennent chercher et à quoi s'attendent-ils et parfois ce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils viennent chercher des choses que vous ne dispensez pas en termes de formation et de savoir. Et donc, il y a la question des territoires, des publics. Et puis, peut-être on peut commencer par là, puisque finalement, ça fait une sorte de lien. Et puis après, ce que j'aimerais, là où j'aimerais vous entendre parler, c'est voilà, sur comment, dans les trois types de départements dans lesquels vous enseignez, comment vous arrivez à faire émerger... des enseignements qui mêlent à la fois des apports qui sont des apports théoriques et comment vous faites intervenir les professionnels. Donc peut-être d'abord sur les publics, présenter peut-être aussi vos départements parce que voilà, département danse, c'est pas non plus un département art, c'est pas la même organisation, c'est pas les mêmes intervenants. Et c'est pas un département danse. Toi, c'est pas un département art au pluriel. Ah, art au pluriel, alors excuse-moi. Ah, Nice aussi. Ah d'accord. Je suis une excuse auprès de tout le monde. Je suis confuse et m'en excuse. Voilà. Donc, vas-y, Marie, peut-être pour commencer à présenter ton département.
Donc, pour le département 1, la raison pour laquelle tu penses que c'est dense, c'est parce que là, il y a véritablement une licence étudiante dedans. C'est-à-dire que dès la première année, je suis comme à Nice à nouveau depuis cette année. C'est des étudiants qui ont choisi la danse et pas un cocktail jazz.
Ça peut être...
et qui ont une passion de la danse, qui arrive et qui compte une congrégation ad hoc, et pas un petit peu cinéma, non, un petit peu pas, une certaine site.
Donc voilà, donc Internationi qui commence en L1,
on a la licence, qui se veut particulier de la... sur l'expérience et des terres pratiques, de démarches créatives, sans pour autant constituer un entraînement régulier, une formation de danseurs, et donc cette pratique se conjuguant avec de la distanciation pour réfléchir à ce qu'on fait, réfléchir à comment on l'a fait, mettre cela en lien avec une culture chorégraphique qui passe aussi beaucoup par lecture et activité de spectateur, spectatrice. Une formation qui met en avant, ce qui n'est pas une évidence, le travail collectif. C'est-à-dire que c'est vraiment un parti pris de l'équipe que de proposer beaucoup de travaux en binôme, en trio, en grand groupe, et de proposer un espace de réflexion. C'est sur le travail en commun, sur comment on le fait. Ce qui n'est pas facile à plein d'endroits, c'est-à-dire notamment parce que dans toutes les formations qu'on a, il y a ce désir de conjuguer la formation à l'université et un autre type de pratique à l'extérieur de l'université qui va mal avec l'engagement que réclame un travail collectif. Donc on est toujours au travail là-dessus. C'est... à la fois annoncé très clairement et en même temps pas si facile que ça à faire vivre. C'est-à-dire que voilà. On se confronte et pas seulement évidemment sur le mode de la confrontation à Parcoursup et à des étudiants qui pour beaucoup d'entre eux sortent du bac et qui, pour une bonne part d'entre eux, pas seulement non plus, enfin, avec des publics en fait extrêmement divers. Je rejoins exactement ce qu'a dit Marina sur la passion, le projet assez précis, le désir artistique qui vient se nourrir à l'université, le pis-aller qui devient finalement nécessité, enfin, tous ces traînages. Et quand même une bonne partie d'étudiants qui, sans doute, il me semble, n'auraient pas mis les pieds à l'université s'il n'y avait pas eu la danse. Et avec ce challenge très très beau et en même temps pas du tout évident d'accompagner la formation de jeunes qui parfois n'ont pas un public, un parcours et des compétences scolaires, académiques, de rapport à l'écrit qui sont conformes à ce qu'on attend habituellement à l'université. Avec le désir très net de notre part d'accompagner ça, de valoriser aussi des compétences orales. Le travail collectif, c'est ça aussi. Mais en même temps, ça se heurte à des difficultés qui sont aussi nos difficultés pédagogiques, à l'accompagner des étudiants passionnés de danse, mais qui se... Voilà, où l'université, avec son habitus, ses rapports à la lecture, etc., est aussi un lieu de violence. Alors, voilà, donc on essaye d'accompagner, de travailler, de dire, de mettre en travail, mais pas tout ça. Voilà. Peut-être ça va déjà. Petit début.
Mélanie?
D'accord. Donc moi aussi, j'ai intégré donc le département art au pluriel assez récemment, en 2023. À Brest, c'est un département qui a été créé il y a quelques années, en 2017, donc qui est quand même relativement récent, et en fait qui partait d'un constat qu'il y a un tramage, une dynamique culturelle très forte sur le territoire de Bretagne et du Finistère, mais qu'il n'y avait pas au sein de l'université, il n'y avait pas cette corrélation, en tout cas cet échange qui se faisait donc au fin fond de la Bretagne, au fin fond de l'Angleterre. Voilà. Parce qu'il y a évidemment la grande et la belle reine, mais il y a aussi d'autres universités en Bretagne, notamment à Brest. Donc le Jean-Manuel Varnet, qui était un enseignant en lettres, mais qui avait fait une thèse sur les laboratoires de théâtre au début du XXe, etc. C'est lui qui a l'initiative de ce département et qui se veut donc pluridisciplinaire et qui a lui théorie et pratique. Et c'est lui qui a bataillé corps et âme, et merci, force à lui, pour créer un poste danse. Qu'il y ait un chercheur, une chercheuse en danse qui rejoigne l'équipe, et c'était vraiment une gageure, quoi. Et c'était vraiment une volonté de sa part, politique, esthétique, et parce que il estimait que, il fallait parler de danse dans un département art, et que pour parler de danse dans un département art, il fallait que ce soit un maître de conférence, peut-être un maître de conférence en danse, pas quelqu'un qui aurait fait plus du théâtre, par exemple, et qui, comme ça peut arriver parfois dans d'autres départements. Et donc, ça, c'est très important de le dire, parce que dans la problématique qui est la nôtre et de nos collègues qui arrivent, non seulement il y a de moins en moins de création de postes, mais quand on veut placer quand on veut créer des postes où on estime que la danse est importante, on a tendance à profiler les postes pour que ce soit pas forcément des gens qui viennent des études en danse qui aient ces postes, et du coup ça pose un problème vraiment fort, quoi, pour nos collègues, quoi. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, qu'il y ait cette volonté-là au sein du département de Brest. Et donc, le principe, c'est que tous nos étudiants donc ont un socle commun où ils sont dans des apprentissages théoriques, danse, musique, cinéma, théâtre, art plastique. Oui, je crois que ça. Et ils ont des pratiques de spécialité dans des écoles partenaires, dans des lieux partenaires, où ils sont dans un apprentissage au conservatoire, en troisième cycle, où ils intègrent aussi pour quelques ateliers l'école des beaux-arts, etc., pour avoir une pratique de spécialité dans les écoles d'art. Et donc, nous, on fait, on a ce socle théorique et on anime aussi dans une. Aussi une dimension du travail de collectif et du travail pluridisciplinaire. On met en place des ateliers de recherche-création, des séminaires, etc. Donc, sur 3 années de licence, on n'a pas de master, on a une accréditation, mais pas les moyens encore pour l'ouvrir. Et donc, voilà, c'est vraiment ces deux pôles, la pluridisciplinarité et l'échange entre théorie et pratique qui constitue la singularité en fait de cette formation en Bretagne, avec un public en fait de post-bac. Hein, on recrute beaucoup par Parcoursup, mais on recrute donc aussi sur à la fois des qualités rédactionnelles et essayer de le plus possible de voir si l'étudiant ou l'étudiant est en capacité quand même de pouvoir effectivement avoir un rapport au théorique, à l'écrit, qui lui permette en fait de s'épanouir à l'université, parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu frustrant et compliqué pour eux, mais aussi qui a une appétence technique ou en termes de création suffisant pour les écoles partenaires pour pouvoir intégrer des cursus. Donc il y a cette double attente en fait dans notre recrutement à Brest. Et,
du coup, spécialisation, ça veut dire que quand les étudiants arrivent dans leur spécialité pratique, ils ont tous déjà un niveau, il y a des débutants ou pas?
Non, enfin, ils ont tous une pratique déjà
avérée,
on va dire, au conservatoire, par exemple, en danse, ils sont soit en fin de cycle 2, soit en cycle 3, et très vite, ils atteignent les classes pré-professionnelles. Donc, voilà, aux Beaux-Arts, ils doivent être en mesure d'intégrer la première année, enfin, voilà, d'être dans. Donc, il y a quand même, oui, donc ce sont des jeunes. Gens qui ont une pratique artistique quand même bien avérée, oui. Enfin, entre deux, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, mais nous, on les forme pas à devenir artistes. Voilà, c'est un cadre, en fait, qui leur permet d'avoir un statut étudiant, de pouvoir enseigner à l'université et de pouvoir aussi avoir une pratique intensive ou semi-intensive de leur voilà de leur discipline, et donc on a effectivement une population post-bac. Il y a quelques lycées avec les spécialités pour la danse, en fait il y a une continuité avec les avec le bac danse. Il y en a 2 à Brest, donc voilà, ça il y a un petit vivier en fait aussi d'étudiants par ce biais-là, mais quand même globalement, les étudiants sont attirés par le principe de cette licence et ils arrivent un petit peu de tout le territoire. Bon, au bout de 3 ans, après, ils ont envie de repartir. Brest, c'est très bien, hein, c'était magnifique, mais un petit peu éloigné quand même de certaines. Voilà ce que je peux dire. Je crois que j'ai répondu aux deux.
Guillaume, pour Strasbourg.
Pour Strasbourg, j'ai été nommé sur un poste en 2017, poste de maître de conférence en danse, qui n'existait pas avant, si ce n'est le passage de Roland dans l'université, au sein d'un département qui n'existe plus de la même manière aujourd'hui. Parce qu'à Strasbourg, il y a un fonctionnement, une faculté d'art qui chapeaute différents départements, art visuel, musique et art du spectacle, avec des histoires très très différentes. Hein, art du spectacle, là, a été créé il y a 20 ans, quand le département de musique a été créé à la fin du 19e siècle. Donc on est rattaché à une même faculté avec des histoires quand même très très différentes. Et à l'occasion de la nouvelle offre de formation, puisqu'on est soumis tous les 5 ans à proposer une nouvelle offre de formation comme dans toutes les universités, ces 3 gros départements sont subdivisés, c'est-à-dire que pour art du spectacle, les collègues de cinéma sont sortis de l'art du spectacle pour créer un département cinéma, Et les collègues de design sont sortis du département art visuel pour créer un département de design. Donc on a un moment où en fait là, la rentrée 2024 correspond à une nouvelle offre de formation dont on n'a pas vraiment de recul pour mesurer en fait quelles vont être les conséquences. Donc je vais plutôt parler de la précédente organisation, c'est-à-dire c'était donc un département art du spectacle avec une licence art du spectacle, mais organisé par parcours, un parcours cinéma, un parcours théâtre, un parcours danse, et un parcours danse qui était lui-même subdivisé en deux branches, c'est-à-dire un double cursus qui se faisait en partenariat avec le conservatoire régional de Strasbourg, et puis un cursus qui ressemblait à celui qui pouvait être donné en cinéma et en théâtre, si bien que cette nouvelle offre de formation qui a été l'occasion des collègues de cinéma de sortir du département nous a obligés à, pour des raisons de moyens, on a déjà entendu, à repenser l'offre de formation dans une formation qui est clairement orientée du côté des arts de la scène de manière transversale. C'est-à-dire qu'on aurait une sorte de double niveau, un premier niveau au niveau des cours magistraux, on va dire cours d'amphi, où on va penser les choses par objet en essayant de répondre à la fois aux fameux passionnés de danse, mais aussi aux passionnés de théâtre, aux passionnés de marionnettes, éviter de ce qui était l'écueil de la précédente offre de formation, c'est-à-dire avoir une première année où ils avaient un tiers cinéma, un tiers danse, un tiers théâtre, ce qui ne satisfaisait personne, puisque chacun étant frustré de n'avoir qu'un tiers de sa matière. On avait beau expliquer que c'était quand même malgré tout intéressant de s'intéresser aux autres arts, quand bien même on était en danse, en cinéma ou en théâtre, mais voilà, c'est pas audible pour un étudiant qui sort du bac à réussir à convaincre papa et maman qu'il allait ou qu'elle allait faire une licence en art du spectacle, et donc qui veut absolument faire que de la danse, que du théâtre ou que du cinéma. Donc là, on aspirait d'avoir une première offre de formation de cours pour qu'on en fie qui va fonctionner à partir d'objets, les politiques culturelles, la scénographie, la dramaturgie, ce genre de choses. Et puis une logique malgré tout un peu plus disciplinaire qui va s'organiser au niveau des TD, donc TD, que ce soit des TD théoriques comme l'analyse d'œuvre, l'atelier de recherche, mais aussi des cours pratiques, puisque la formation à Strasbourg, comme dans très nombreuses universités, inclut un ratio qui est de 60% de cours théoriques et 40% de cours pratiques. Donc les étudiants qui venaient à Strasbourg, c'était pour une partie ceux qui s'engageaient dans le double cursus, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur formation au conservatoire et qui suivaient la licence, où ils suivaient à peu près 80% des cours de la licence. Ce qu'ils ne suivaient pas, c'était une partie des cours pratiques, parce qu'on considérait que ce qu'ils suivaient au conservatoire, pas dit très largement à ce qu'ils auraient pu découvrir à l'université. Avec, comme ce que tu as décrit, Marina, ou ce qui existe à Lille, la possibilité de validation de certains acquis pour les unités d'analyse physio, de formation musicale du danseur, d'histoire de la danse, ce qu'on ne propose plus aujourd'hui, puisque dans la nouvelle offre de formation, on n'a plus de cours d'histoire de la danse en soi, on a des cours d'histoire des arts de la scène, et dont le contenu ne répond plus aux attendus de cette UV d'histoire de la danse. Alors, ce double cursus existe toujours, mais il est retourné chez des collègues de STAPS, de là où il est né, parce que quand moi j'arrive en 2017, il y a déjà l'enseignement de la danse qui est pris en charge par la faculté des sciences USP. Voilà. Voilà pour dresser un petit peu le portrait. Le portrait robot des étudiants jusqu'à présent, c'était donc ça. Des gens qui faisaient le conservatoire et qui continuaient leurs études à l'université. Une partie de passionnés de la danse aussi. C'est ça. Qui ont réussi à convaincre papa et maman et qui vont découvrir au cours des trois années de licence ce que c'est l'enseignement de la danse à l'université. Puis, au tout début, quand je suis arrivé en 2017, correspondait aussi avec la nomination de Bruno Boucher à la direction du CCN Ballet de l'Opéra National du Rhin. où il y a eu une sorte d'appel d'air de danseurs qui ont voulu passer la licence pour préparer l'après ballet. Alors il y a eu comme ça toute une 3-4 danseurs qui ont fait cette démarche-là. Alors, sur une compagnie qu'on compte une petite trentaine, ça faisait déjà 10-15%, donc c'était plutôt pas mal. Et puis ça s'est arrivé avec cette vague-là. Voilà, pour dresser un petit peu ça, je sais pas si tu veux qu'on...
Non, on prend un peu de temps.
On ne l'attend pas.
Ça fait la question. Et alors, dans vos formations, voilà, quel type de projet vous avez développé pour la mise en contact ou pour l'enseignement, c'est-à-dire vraiment, alors même si c'est collectif et qu'il y a des collaborations, il y a, j'imagine, différents types de collaborations avec un vacataire qui viendrait, un chargé de cours qui viendrait apprendre quelque chose et des ateliers créatifs qui relèveraient vraiment, vraiment plus de quelque chose qui n'existe pas et qui existe après l'atelier de création. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ces présences en fait de professionnels dans vos formations? Je ne sais pas si j'ai été claire.
Donc sur la présence de Alors d'abord, quand est-ce qu'ils sont en contact? Isabelle soulignait tout à l'heure qu'il y avait plusieurs artistes chercheurs. Aujourd'hui, on a des collègues qui sont pleinement artistes chercheurs et qui sont aussi des professionnels de la danse.
Mais que je voulais dire qui viennent, qui sont pas attachés à l'université.
Oui,
qui viennent de l'extérieur.
Ouais, ouais, ouais. Donc il y a des artistes qui viennent donner des cours soit réguliers, soit des ateliers intensifs. Ça peut être un petit peu comme ce qu'évoquait Isabelle, même si c'est sur des volumes horaires qui m'ont fait rêver de 80 heures. Nous, quand on arrive à faire un cours de 36 heures d'histoire des danses relié à un atelier de 24 heures, on est super content. Ouais, c'est pas tout visant. À 24 heures de création, par exemple avec les archives, c'est super.
Il y a aussi, alors il n'y a pas que les artistes, c'est-à-dire qu'on peut aussi intervenir des gens qui sont médiateurs, programmateurs. Chargé de production sur des initiations aux questions d'économie, de droit, de médiation. Sur des postes effectivement, qui sont soit des postes de vacataires avec toute le
panel qui peut exister, de statuts dans la vie diffère. Et puis, on a nous des postes aussi de contractuels à mi-temps. Donc, ils sont sur des postes, c'est comme des postes de Prague, donc des postes uniquement d'enseignement, mais qui seraient annuels, enfin, qui seraient sur des contrats d'un an. Donc, des contractuels à mi-temps assurent 192 heures de TD par an. Et ils peuvent être des profils d'artistes ou de pédagogues, ou là, par exemple, une spécialiste de la SMD, l'anatomie, qui dans ses cours. Et puis il y a aussi l'invitation d'un intervenant dans le cadre d'un cours. Sur des formats qui peuvent être très divers, comme inviter quelqu'un à venir de façon gracieuse, en fait, comme il y a deux jours avec un enseignant qui est venu raconter son parcours dans le cadre d'une histoire. Il se focalisait sur l'histoire, sur la figure de l'enseignant. Des invitations pour tuer.
Bon, tu vois.
Strasbourg, un autre exemple que je vais peut-être développer, c'est celui de la résidence d'artistes à l'université, parce qu'on a une longue tradition, l'invitation d'artistes qui a débuté à toute fin des années 90. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, le service d'action culturelle qui est porté par un collègue du département art du spectacle, ce qui fait que ça facilite aussi les discussions m'avaient vraiment encouragé en fait à proposer une résidence d'une chorégraphe. D'une part parce que partant du constat que ces résidences d'artistes étaient souvent des artistes hommes, Et que par ailleurs, il n'y avait jamais eu de danse. Depuis 2017, j'ai proposé comme ça deux projets de résidence. Le premier, c'était Mathilde Monnier. Le deuxième, c'était l'invitation de Fanny Chaillé, aussi dans la perspective de notre refondation de département de manière beaucoup plus transversale. Et puis, on a effectivement, comme dans plein d'universités, à faire appel à des collègues qui sont implantés en région, qui sont chorégraphes, danseurs, pédagogues et qui vont intervenir, prendre les formations, ou alors des professionnels du spectacle vivant. Là, ce sont les étudiants qui vont dans la structure pour découvrir les différents métiers. Et puis, alors là, c'est plutôt en théâtre, mais maintenant, on est dans la même formation. C'est un parcours qui a été mis en place il y a quelques années, qui s'appelle un parcours autrice, où pendant un an, il y a une autrice qui vient et qui donne des cours à la fois en licence et en master. Et donc c'est, de mémoire, 2-3 cours et qui permettent effectivement de, pas toujours, mais d'aboutir à une collaboration éventuelle entre l'autrice et et certains, c'est des plus durs. Enfin, donc, vraiment, la spécificité de Strasbourg, ça serait cette idée de résidence d'artiste à l'université qui se déploie sur un temps long. Jusque là, les deux résidences, c'était à chaque fois une année. Voilà. Et un peu plus pour faire les filles d'ici. Alors, c'est financé indirectement par le ministère de la Culture via la DRAC Grand Est qui subventionne le service d'action culturelle et d'autres leviers au niveau de l'université. Donc, pour une partie. Après, il y a une partie, c'était peut-être pour la résidence de Fanny Chaillé, d'aller chercher de l'argent auprès de structures culturelles strasbourgeoises. Donc ça soit aussi bien le centre de développement graphique de Strasbourg, s'appelle Pôle Sud, que peut-être parce qu'on a aussi un théâtre national, ce serait pour quel TNS, ça c'est que pour la résidence de Mathilde Monnier, mais là pour Fanny Chaillé, j'ai été aussi sur le terrain du mécénat, donc aller voir aussi des entreprises privées. On a eu le mécénat d'une fondation d'entreprise Hermès en l'espèce, qui a participé au financement de la résidence.
J'ai entendu le mot FAST, vous en avez aussi?
On a une passe qui est metteuse en scène et qui intervient essentiellement dans l'ancien parcours théâtre. Et maintenant, on intervient dans ce parcours art de spectacle. Mais qui est là depuis longtemps, parce qu'elle était là bien avant moi. Je pense que ça doit faire, je sais pas,
moins de 12 ans qu'elle est là. Il y a une, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des passes sont arrivées il y a, j'ai 15-20 ans, puis là, ça s'est un peu calmé. J'en vois moins un peu, qu'il y a des têtes tout.
Je pense que tout le monde s'est laissé, qui s'est transformé.
Oui, c'est un professionnel. Alors, à l'époque, c'est un professionnel, c'est des comptes par 3 ans, mais là, 3 sur octobre.
Et on a mal à donner ici. Et c'est pas mal pour attirer les professionnels dans des formations, tout type de formations, mais s'il y en a un, il y a l'allure, ouais.
Alors, Marmassène est petit, mais la tendance est de transformer les pastes en troche.
Oui, il y a de moins en moins, ouais. Nous, on est en train d'en chercher un.
Il y a des archéos partout, on vit que la terre est aride.
Ouais. Mais ça, typiquement, ça peut être un rebond de salaire de ce genre de projet, de faire remonter les arts en disant, mais donc, on cherche à rapprocher les technologies, Marc-Olivier et Tichter. Une des formes, c'est le pass, qui a des avantages. Ça dépend de la personne que le prend.
Bien sûr. Quand c'était Didi, mais quand j'ai regardé le COS, c'était Dim, je dis, ah, ouais. Ouais, non, mais ça... Aussi, hein. Même pour les parents, pour les étudiants. Ça.
Confiance en conditionnel.
Mmh. Ah, c'était très important. Enfin, je pense que c'est très important la possibilité d'avoir des passes. D'abord pour les professionnels, parce que c'est bien aussi, quand je veux dire, ils aiment les artistes. Mais après, ce qui est compliqué, c'est là où ça se heurte sur
une bureaucratie, c'est-à-dire que les conditions pour être passe, c'est un casse-tête absolu, quoi. C'est-à-dire, il faut justifier de 9 ans d'intermittence.
Non, c'est pas côté recherche, c'est côté contractuel, on peut effectuer une activité professionnelle.
Oui, oui.
Mais pas recherche ou frais.
Ah, c'est le stagiaire et clame, effectivement, de justifier les activités de recherche.
Bah, d'ailleurs, c'est des liaisons.
Donc, voilà, on ne sait pas. Et finalement, l'université se donne parfois les cadres et en même temps s'empêche ce qu'elle a proposé elle-même. Donc, il y a une espèce de, là aussi, de tension de ne pas aller jusqu'au bout parce que les administrateurs n'actent pas ce qui est fait au niveau plus politique. Donc, c'est
complexification logique. J'ai des amis qui venaient au séminaire parce qu'il fallait pour 2 heures et qu'elle était complice à Roisville. Georges Gaël, je disais, c'est partout, hein. C'est pas juste cette catastrophe. Je disais, si ça va être ça, ça n'en est pas.
Bon, après, moi, j'ai d'autres questions, mais c'est.
Allez-y.
Allez-y, quoi. Enfin, des choses qui vous intéressent, toutes mes questions. Ouais, c'est vrai qu'il y a la question de la mise en danger des postes et de ces collaborations. C'est-à-dire qu'il y a le fait de proposer une ouverture sur la danse qui, vous l'avez souligné tous les trois, qui est en danger. Donc clairement, c'est même pas fragile. Je crois que c'est vraiment en danger dans le contexte actuel. Et puis, il y a la place des professionnels et des conditions d'accueil que l'université fait qui posent problème aussi. Donc, par exemple, je ne sais pas si tout le monde est au point, mais quand on est vacataire et qu'on vient faire un cours, on n'est pas pris en charge dans son déplacement. Et malheureusement, là où on est dans nos territoires, il n'y a pas forcément la personne idéale, etc. Et en fait, la personne qui viendrait, elle paierait plus pour venir, elle dépenserait plus, que ce soit en temps ou en argent, que le fait d'être rémunérée pour une activité qu'elle propose et qu'elle anime, non ? Il y a cette question politique aussi des personnels qu'on aimerait voir plus, en fait, dans nos murs et on n'arrive pas. Voilà, c'est une autre question de conditions de travail, en fait, des professionnels de l'agriculture.
Une fois qu'on peut intervenir, parce qu'il faut un statut particulier pour pouvoir acheter ta foi. Un contrat de vacataine, donc si tu n'es pas...
métier principal en temps, ou t'as pas un métier principal.
Vous êtes toujours bien auto-entrepreneur, mais depuis 3 ans, non, et puis... Si tu peux trouver la personne merveilleuse qui lui est, qui est d'accord avec les conditions économiques que tu proposes, qui sont ridicules là aussi, et puis quand tu arrives au bout de la chaîne, tu te rends compte qu'il n'a pas les tatouages. Donc, à chaque fois, c'est le gros demain. C'est pareil, organiser ça.
Une fois, pour 2 heures, on m'a demandé de me payer judiciaire.
On n'y a pas, je peux y aller. Non, bon.
Si, non. Toi, tu poses des questions. Ah, mais c'est vrai.
Mais est-ce que tu t'as dit, là, sur l'attente des étudiants, c'est vrai que...
Les étudiants en cinéma et le théâtre, au moins la danse, c'est trop pas le truc.
Bref, frustration, c'est parce que...
Bien sûr, je me demandais s'il y constatait une décalation, justement, mais de...
Alors, je sens que différent, vous l'avez dit, des étudiants, mais si vous constatiez une évolution, des différences dans les attentes des étudiants, ce pourquoi ils viennent même dans les cursus que vous posez ici.
Alors, à Metz, c'est sûr que c'est discipliner, on va dire, l'enfance.
C'était du terme, c'est là, si les gens viennent en cinéma, ils viennent en cinéma, quoi. Ils ont la fémis en ligne de mire, et voilà. Et alors c'est comme ça, hein. Il faut les prendre comme ça, et tout ce qu'on pourrait penser sur les approches transversales, c'est compliqué, quand c'est pas leur territoire. Alors, je sais pas si c'est très leste en particulier, qui s'est renforcé aussi par des informes des collègues, elle aussi. C'est pas évident, ce moment d'alter ou de trans ou de choses comme ça. c'est dur à analyser, hein, c'est-à-dire que sur quoi, de quoi on parle, quoi, quels sont les concepts qui sont des lieux passables, des lieux communs au sens fort du terme. C'est pas évident, quoi, penser qu'on a 18 ans et qu'on vient voir, et qu'on a envie d'être Spielberg, Luche, quand toi, enfin, l'on va s'y assaler, mais c'est imaginaire, quand même. Hein. Il y a dont il faut tenir compte.
Lorsque je perçois en termes d'évolution, j'ai envie de dire sur 30 ans, c'est depuis les années 2010, comment dire, par rapport aux attentes artistico-intellectuelles et politiques, d'une certaine manière, une politisation plus grande des attentes, c'est-à-dire certaines urgences qu'il y ait des cours qui traitent des questions sociétales de manière plus frontale, la question du genre, la question de l'écologie et la question du post-colonial. C'est-à-dire qu'on est face à des étudiants qui sont dans un dialogue avec ça dans leur propre vie, avec ce qui se dit dans le monde aujourd'hui, et ça pour eux à ça, voilà, et le corps enseignant étant lui-même pour eux à ces questions sociétales, ces urgences sociétales, que j'ai oublié aussi la question du soin. En fait, il y a quatre et ça nous a fait bouger. Parce qu'on est attentive, je pense, comme tous les collègues ici, attentive à ce que l'enseignement, d'une certaine manière, puisse rencontrer aussi les attentes et les désirs non formulés, ou en tout cas qu'on peut partager et sur lesquels on cherche. Donc, c'est progressivement intégrer les études de genre, par exemple, avec, à l'époque, c'était donc dans les années 2006-2007, avec la venue de, à l'époque, elle s'appelait Béatrice Preciado, Paul Preciado, qui est venu enseigner pas mal d'années au département. Donc, soit parce que nous, on n'était pas assez armés pour le faire, donc on, voilà. Les cours d'Hélène Marquet aussi se sont intégrés au département. Et puis, sur les questions d'écologie, il y a un master, alors la transversale art et écologie, qui est en train de se monter à Paris 8, ou la transversalité. Il y a eu même un parcours à un moment donné qui a été posé sur technique du corps et monde du soin par Isabelle Gineau, qui a été découragée après quelques années, donc c'était un début au sein de la formation continue, mais elle poursuit ce travail vaillamment, voilà. Et moi, depuis quelques années aussi, sur dans ses pouvoirs d'agir, sur des questions liées en contexte post-colonial, dans le champ français, mais pas seulement. Donc voilà, je crois que ça, c'est des questions, des types de cours, des problématiques qui était, je crois, absente dans les fondations, de notre département, dans les années 90 et 2000. Enfin, parce que c'était des hommes aussi, je pense, évidemment, et que leur urgence n'était pas là à ce moment-là.
C'était pas que ça, c'est-à-dire que les questions émergent après. Il n'y a pas qu'en dehors pour... C'est le cas à l'université, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le présent interroge et puis
Mais Marina, par exemple, était pionnière par rapport à ça. Et c'était il y a très longtemps qu'elle était déjà, je ne sais quelle seconde.
Oui, et j'étais dans nos pensées à ce que tu dis, c'est que, en fait, moi, j'avais fait une thèse dans ces genres, donc j'arrivais à m'intiller. Mais du coup, faire des cours sur le genre quand je suis arrivée, ça déstabilisait énormément. Et ça continue. L1, L2, parler aux générations d'aujourd'hui. Et par exemple, je montre toujours cette planche anatomique du 16e siècle où ils sont nus. Et il y a les organes sexuels montrés et je parle de ça. Et ça
dérange.
ça dérange aussi parce qu'on a des étudiants qui viennent de cultures très différentes. Et donc, tu peux avoir dans le public des étudiantes voilées qui boivent ça et donc faire avec. Et il y a des situations où bien mes cours sur le genre ne sont plus du tout les mêmes, depuis qu'il y a des non-binaires ou des transgenres dans la salle. Donc ça se rediscute à l'analyse. Au rythme des faits sociétaux qui changent la société en même temps, a complètement changé sur ces thématiques. C'est pas la même chose. Et en première année, c'est très délicat parce que L3 et Master, ils sont plus mûrs et puis ils ont aussi une expérience du corps qui est différente. Mais quand ils arrivent à sortir du bac à 18 ans ou à 17 ans, c'est pas évident de parler de ce
genre. J'ai vu qu'il y avait des universités qui composaient des UE pour de savoir comment questionner l'intelligence artificielle.
Parce qu'il y a des stratégies, là, que ça aussi, ces niveaux. Toi, je dis pas que c'est bien, que ça va bien, hein, mais qu'à un moment donné, pour apprendre en compte, notamment pour l'ITA, des choses comme ça.
Là, il y a des stratégies pour interroger, pour avoir des
certains types de réponses. Et il y a des renseignements qui se contournent là-dessus.
Ah. On est en train de réfléchir à ça. On a commencé par interdire et puis on ne peut pas. Et donc là, il doit un peu vite.
Ok, Bibi.
Vous remerciez toutes et tous d'avoir joué. Non, c'est hyper intéressant. Je suis hyper contente. Voilà, ça contribue à faire avancer. Dans nos disciplines, tout simplement. Donc, merci beaucoup.